la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Pas l'heure de dormir. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission littéraire Par le bout de la lorgnette. Nous n'allons pas voyager aujourd'hui vers d'autres continents, nous allons voyager dans le temps. Bonjour Valérie.
Bonjour Nicolas, bonjour Pimprenelle.
Tu as une très belle robe à crinoline, Valérie.
N'est-ce pas ? Je vais regarder mes grenouilles grimper le long de l'échelle pour me dire le temps qu'il fait dehors.
Tu as bien raison. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Quel corset extravagant.
Eh oui.
C'est souvent comme ça, le vendredi midi. Salut Héloïse.
Salut, salut.
Un très beau jupon, toi.
Merci, tu as de beaux favoris.
Merci bien Héloïse. Et oui, nous allons repartir dans les livres anciens, des livres jeunesse qui ont égayé l'enfance de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, voire encore plus loin. Avec quelquefois des rééditions, quelquefois des livres qui ne sont pas des rééditions, car ce sont nos goûts personnels, nos livres quand on était enfant, sauf Valérie qui a oublié mais qui va quand même se rattraper parce qu'on la connaît, elle est très forte avec son téléphone et le wifi et internet. Et oh, c'est la fin, c'est le jingle de fin. Vous l'entendez pas mais je l'entends, alors je vais l'arrêter. Hop là, parce que je l'ai pas mis en manuel. Héloïse, dis-nous, des rééditions, ça arrive souvent dans... chez les maisons d'édition.
Effectivement, en ce moment, il y a un regain de popularité envers des textes ben, qui ont marché il y a 50, 40 ans et qui sont réimprimés, qui sont de très bonne qualité. Je pense notamment à un grand classique de la littérature jeunesse, Maurice Sendak, Max et les Maxi-Monstres, par exemple, qui a toujours été réimprimé, réédité. Mais maintenant, il y a des maisons d'édition qui regardent aussi les autres livres en fait de cet auteur. Il en a écrit plein des super. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, il y a beaucoup de réimpressions. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le recul, en fait, on peut choisir, on peut trier en fait ce qui était meilleur, ce qui était de qualité, quoi.
Très bien, je vois que Popo fait des signes, elle veut peut-être prendre la parole, à moins qu'elle ne soit en train de manger quelque chose.
Je suis en train de manger quelque chose, mais je peux prendre la parole, il n'y a pas de souci.
Vas-y, on te la donne.
Je commence avec Le Secret de Rosie alors, puisqu'on parlait de Maurice Sendak, donc qui a écrit Max et les Maxi-Monstres, et moi j'ai lu donc Le Secret de Rosie. Rosie, c'est une petite fille qui est pleine d'imagination. Elle aime se déguiser, elle aime s'imaginer des personnages. En fait, c'est encore un peu comme dans Max et les Maxi-Monstres. C'est une petite fille qui rêve, qui s'imagine un joli monde, un chouette monde pour s'amuser. Alors, c'est peut-être moins riche que les Maxi-Monstres quand même, hein, mais je pense que pour des petits, voilà, c'est une petite fille qui est pleine d'imagination et ça fait rêver. Elle va se déguiser en princesse orientale, en chanteuse, et elle encourage évidemment tous ses camarades à jouer avec elle. Elle se déguise, elle trouve de grands chapeaux, et elle a même de l'imagination. Quand elle n'a pas les déguisements adaptés, elle va se mettre une serviette pour faire sur la tête, pour se faire un magnifique turban, etc. Donc c'est plutôt mignon, et puis ça pousse les enfants à jouer et à s'amuser un peu avec autre chose qu'avec leurs jouets.
Oui, avec que je les trouve, moyens du bord.
Ouais, avec en fait. Les moyens du bord. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. Donc c'est une mignonne petite histoire. C'est un livre important à lire le soir. Ça prend le temps, ça endormira tout le monde, c'est très bien.
Ça s'appelle Le Secret de Rosie. Et
son secret de Rosie.
C'est qu'elle aime se déguiser.
C'est qu'elle a de l'imagination, elle a, voilà, elle éveille la curiosité de tous ses copains, en imaginant des personnages. C'est un peu ça, son secret.
Allez, la colle. Quelle année, Le Secret de Rosie?
Alors, je ne sais pas.
Voilà, c'est bien. Je vais vous demander pas préparé à chacune d'entre vous. Hein.
60, le copyright. Donc, 1960. Pense que copyright, ouais.
Pourtant, ça a l'air assez contemporain comme histoire, quelqu'un qui se joue en se déguisant.
Mais finalement, c'est quelque chose qu'on a fait, que les enfants font depuis toujours,
depuis
en fait.
Toujours,
je pense
oui,
qu'on aurait pu
ça.
L'écrire à n'importe quelle époque. Après, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu le pompier à toutes les époques. Il n'y aurait pas eu... mais ouais, c'est quelque chose que les enfants font.
Elle se déguise en quoi, par exemple?
Eh ben, en chanteuse, en danseuse orientale, c'est ce que je disais. Ouais. Elle a un copain qui aime beaucoup se déguiser en pompier. Mais bizarrement, ça intéresse personne. C'est un peu tristounet. Mais
flûte.
Voilà. Là, elle est pleine d'imagination. Elle est surtout toute mignonne et elle donne envie de se déguiser et d'imaginer plein d'histoires.
Et c'est, voilà. C'est du coup, c'est aux éditions Mémo et c'est une maison d'édition qui réédite beaucoup de textes plutôt anciens en fait.
Ah, j'en ai un de littérature jeunesse. À présenter ouais. De vos éditions Mémo. Ok. Merci Popo. Valérie, tu avais un livre aussi à présenter aux éditions Mémo. Je te vois sortir un livre. Non, pas du tout. Alors, c'est moi qui vais poursuivre. Les éditions Mémo, et je vais vous présenter Deux petits ours par Ia. Ia qui se nomme Camille Coffleur, de son vrai nom, et qui publie en 1954 un livre illustré de photographies qui s'intitule Two Little Bears, donc ce qui veut dire Deux petits ours, Valérie. C'est d'ailleurs le seul livre qu'elle réalisera entièrement, car elle a auparavant confié ses photographies à des grands noms de la littérature. Alors, Jacques Prévert, que tout le monde connaît, il y a Paul Léoto aussi, Marie Dormoy et bien d'autres. Alors, Deux petits ours, c'est l'histoire de quoi, Valérie, à ton avis?
Je le dis au hasard, hein.
Au hasard.
C'est un peu audacieux, deux ours.
Exactement, Valérie. Deux ours, mais qui sont petits. Et alors que leur maman est partie chercher du miel, décide de passer outre de ses recommandations, d'aller découvrir le monde jusqu'à se perdre et de devoir demander à différents animaux leur route pour retrouver leur tanière. Alors, j'avais oublié ces livres de photographie. Alors, c'est vraiment mignon comme tout. Mes gosses sont adorés. Alors, il faut savoir que pour cette histoire, il y a acheté deux oursons. Elle les a nourris au biberon. Enfin, elle les a achetés, pas pour l'histoire, mais elle les a achetés parce qu'elle aimait les animaux. Elle faisait de la photographie animalière. Elle les a nourris au biberon et les jeunes ours la suivent vers partout, y compris dans la forêt du Connecticut où elle fit cet album. À l'époque, ce livre, je vous le fais passer, a été simultanément adapté, publié en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Israël, en Italie, en Suède, en Suisse. Et alors qu'il devait sortir en France par le biais d'un éditeur suisse, il y a trouvé la traduction, on pourrait parler de réécriture, hein, trop morale, alourdie par des dialogues plats. Merci à nos amis suisses. Et finalement, c'est l'écrivaine Paulette Fauconnet, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne la connais pas, qui réécrit un nouveau récit. Et ce livre, donc, pu sortir en France. Donc, c'est les éditions Emo hein, qui ont travaillé sur cette réédition. Du coup, eux aussi ont retravaillé le dialogue, le texte, pour qu'il soit plus en phase avec le lecteur d'aujourd'hui. Alors, je trouve ça assez dommage. Surtout parce que j'ai d'autres livres avec une écriture d'époque et c'est vraiment intéressant de voir cette écriture française soutenue.
C'est l'intérêt de la réédition.
Oui, d'ailleurs. C'est ça. Donc là, ils ont changé de dialogue. Je trouve ça un peu dommage, mais par contre, ça marche du tonnerre envers les gamins parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces livres de photographie.
Et donc, la première édition, tu disais, c'est en
1954.
54, ouais. Mais c'est vrai que ça fait très, très daté, mais en même temps, ça a un charme...
Ben, c'est le charme
c'est,
des
ouais,
photos. En
plus,
les animaux, en photographie, ça marche toujours, hein, quoi qu'il en soit.
Et... Ben après, oui, c'est vrai que c'est une autre époque aussi où quelqu'un pouvait acheter des ours. Et, l'espèce n'était pas protégée à l'époque ou quoi, mais
c'est
étonnant comme histoire, je trouve.
Alors, elle était, je sais pas de quelle origine elle est, si elle était allemande ou autrichienne. Elle avait monté un studio. Elle est partie en 49 quand les États-Unis invitaient les artistes européens à fuir le régime nazi. Et donc, c'est là-bas qu'elle a fait toute sa carrière en tant que photographe animalière pour beaucoup, beaucoup de livres. Et finalement, c'est le seul qu'elle a réalisé entièrement seule en écrivant les textes. Et qui a d'ailleurs eu un grand succès.
D'accord, mais oui, c'est beau.
C'est beau. Je vais te donner la parole, Héloïse, parce que Valérie est encore en train d'écrire sa chronique.
Quand tu veux, j'étais en train d'écrire mes livres préférés de quand j'étais petite.
Ah, c'est bien.
Alors moi, je vais vous présenter un bouquin qui vient de reparaître chez Albin Michel Jeunesse en partenariat avec la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. C'est dans le cadre d'une collection qui s'appelle « Les textes rares » ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc, ça s'appelle « Les deux coqs » et le texte est donc de Hans Christian Andersen que tout le monde connaît ici. Mais c'est un des contes qui est les moins connus et qui est un des moins édités en fait dans les recueils. C'est vrai qu'il passe souvent à la trappe. Effectivement, il est très court et bon, peut-être que dans un recueil, ce n'est pas approprié. Donc, du coup, voilà, ils ont réimprimé le texte d'Andersen avec les illustrations de l'époque qui avaient été réalisées par Théo van Hoytema, qui était qui faisait de la lithogravure, de la gravure, et c'était un peintre néerlandais. Voilà, et c'est un livre qui à l'époque avait été édité par l'oncle de Van Gogh, voilà, qui était éditeur.
Ah, d'accord.
Et donc c'est un texte qui parle en fait de la rivalité un peu factice entre deux coqs, un coq qui est une pirouette au-dessus d'une maison, donc un coq en fonte, mais qui a quand même des pensées, et un vrai coq qui se la pète un peu dans la basse-cour, etc., et qui se vante, et la pirouette est un peu blasée et n'aime pas trop la vie. Donc du coup, c'est un peu cette rivalité-là entre les deux, et qui est vraiment très drôle, et c'est assez cynique, en fait, comme texte. La morale est très drôle aussi, et du coup, voilà, on ne sait pas trop pour quel coq prendre parti, parce que les deux sont assez pathétiques, on va dire. Donc c'est assez drôle. Et il y a quelque chose qui m'a plu, à part le texte évidemment qui était sympa, c'est vraiment les illustrations qui sont des lithogravures qui sont assez sombres, parce qu'à l'époque, en fait, pour l'édition, on avait limité à 3 couleurs l'illustrateur, parce que c'était pas les mêmes techniques d'édition, parce qu'il est sorti en 1898, ce livre. Voilà. Et donc, c'est vraiment magnifique et très expressif, plein de détails. Et c'est vraiment dans un style, on va dire, art déco, moi, que j'aime beaucoup. Avec tous ces oiseaux, on voit cigognes, poules, poussins, pigeons. Et c'est assez majestueux. Et ça rend bien aussi, au niveau du côté assez sombre, le côté cynique et humour noir du texte. Donc, j'ai beaucoup aimé. Après, pour les enfants... je dirais à partir d'un certain âge quand même, parce que le vocabulaire, bah là, est assez soutenu. C'est un texte.
Après, on peut toujours le traduire quand on le lit.
Oui, voilà, oui, oui. Ça, on peut toujours adapter effectivement à la lecture, mais tel quel, voilà, c'est plutôt pour adultes ou pour ados, quoi. Voilà, donc un très bel album.
Dans les années 1890, voire avant, voire après, j'imagine que ça devait être réservé à une certaine caste, ces livres.
Ah oui, oui, oui. Effectivement, c'était des livres. Bah, déjà, le tirage était vraiment limité, comme ça coûtait cher à imprimer. Et après, tout le monde avait accès, on va dire, aux petits journaux, aux feuilles de choux, en fait, où il y avait des BD humoristiques ou des petites choses. Mais après, les livres, c'était quelque chose, effectivement, réservé à une certaine classe.
Il y a une morale dans ton livre ?
Oui, oui, il y a une morale.
Il y a souvent des morales aussi.
Oui, là, ben, un conte, oui, un conte d'Andersen, oui, il y a une morale, effectivement, ouais, mais qui est assez originale, assez drôle, enfin, qui est pas mal. Et voilà, et donc après, le premier livre en France qui a été édité jeunesse, c'était en 1909, et édité en fait à grand tirage, qui était accessible à peu près à tout le monde, et qui s'appelait Macao et Cosmage.
D'accord.
Voilà, et qui était chez Gallimard à l'époque.
Chez Gallimard ?
Ouais.
Tu connais l'histoire de...
Alors,
de
c'est l'histoire de deux personnages, en fait, qui vivent vraiment en harmonie sur une île déserte, avec des animaux, avec une végétation incroyable, etc. Et en fait, la civilisation arrive à eux, et ça bouleverse totalement leur vie, quoi. C'est un peu l'histoire de deux personnes qui sont pas sauvages, mais qui sont, voilà, qui ont l'habitude d'être tranquilles. Et voilà, des personnes vont arriver et vont essayer de changer tout ça. Donc voilà, c'est ça l'histoire. C'est un très beau livre, mais qui n'a jamais été réimprimé. Du coup, il est très, très rare et coûte très, très cher.
Eh oui, j'imagine.
Voilà.
D'accord, merci Héloïse. Valérie.
Mais très bien, tu vois, j'ai eu le temps de finir de préparer ma chronique.
C'est très bien.
Merci pour ce temps imparti. Je vais vous parler, alors j'ai lu
un livre, mais je vais vous parler d'une série de livres, puisque le mien, c'est les histoires fabuleuses de Gédéon. Héloïse, là, m'a prêté Gédéon se marie, qui a été publié donc en 1934, avant que tu me poses la question, Ludovic. Mais il faut savoir que des Gédéons, il y en a eu 16 histoires de Gédéon qui sont parues entre 1923 et 1939. Et là, on est vraiment sur la fin de Gédéon, puisqu'après Gédéon se marie, il a encore deux aventures. Gédéon est un bon garçon, Gédéon traverse l'Atlantique, et après, c'est la fin des histoires de Gédéon.
Une fois qu'il est marié, il a plus.
Voilà, mais chouette série, parce qu'au moins, il y a une fin. Il y a la fin des aventures de Gédéon. Donc, Gédéon, qui est-il? Vous connaissez Gédéon?
Je le vois.
C'est un savant fou.
Moi, ça me disait quelque chose. Un petit canard.
Oui, c'est un canard jaune, un peu comme Saturnin, mais en dessin. Et c'est un canard, en fait, qui est un bon garçon, Gédéon. Et Gédéon, il lui arrive plein de petites histoires, et c'est un peu le Zorro des temps anciens. Et il va toujours régler les conflits, aider, arrêter un voleur. Voilà, il fait plein de choses. Et
C'est le Fayot.
Ouais, mais sympa.
Mais donc, sympa.
Est-ce qu'il est un peu naïf, Gédéon?
Non, il est pas bête pour
pas
un canard.
Bécassine.
Oui, non. C'est pas. C'est vraiment un canard sympa qui a du. Comment on pourrait dire en français? Il a du biais. Enfin, il a du bon sens. Il est vraiment sympathique. Donc voilà, il y a eu plusieurs livres sur lui et. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je pensais que vous connaîtriez le dessin animé des aventures de Gédéon qui était paru en 1979. ATF1, en fait, qui avait été mis en dessin animé. Mais a priori, ça n'a pas dû plaire au plus grand nombre. Mais les livres sont super, en fait. Et moi, quand Héloïse, tu m'as passé ce livre, je suis « Ah, mais je connais, j'ai des Gédéons ». Donc, j'avais déjà lu des Gédéons, mais pas Gédéon se marie. J'avais eu Gédéon qui devenait roi de Moutambac ou un truc comme ça. Voilà. Donc, Gédéon, c'est une super série. Et il a été créé, Gédéon, par une très, très belle personne. Qui s'appelle Benjamin Rabier. Benjamin Rabier, quand on voit sa photo, alors si on oublie sa petite moustache d'époque, est-ce qu'il ne vous fait pas penser à un personnage de BD?
Si.
Lequel?
De film, même.
Non.
Il me fait penser à Dupont et Dupont.
C'est un
ouais,
peu...
Mais voilà. Mais écoutez, Benjamin Rabier...
C'est un peu Chaplin aussi. Hein.
Il avait écrit une bande dessinée qui s'appelait Tintin Lutin. Dont Hergé s'est beaucoup inspiré pour son titre.
Oh,
voilà, mais ils étaient amis, hein. Il y a pas de non, il y a pas de souci là-dessus.
Beau, mais il ressemble pas du tout à Tintin. Hein.
Non, mais il a la bouille ronde et puis je trouve qu'il ressemble au Dupont et Dupont. Enfin voilà, c'était voilà. Et donc il s'est servi du titre Tintin Lutin pour créer son personnage de Tintin. Et c'est à cause ou grâce, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, au pantalon bouffant de Benjamin Rabier. Vous savez, le pantalon de Tintin, là, qui est bouffant aux cuisses et resserré au mollet, que portait Benjamin Rabier, que Tintin, notre héros national, porte son petit corsaire dans ses épisodes.
Et Benjamin Rabier, il est belge aussi?
Il est français. Il est né à La Roche-sur-Yon et mort à Faverolles en Berry, à 74 ans. Et il a été illustrateur quasiment toute sa vie, presque toute sa vie, parce qu'il avait besoin d'argent, donc il a dû aller dans la vie active plutôt que se consacrer à l'illustration. Mais très vite, il a commencé à faire des petites publicités pour les grands magasins, les choses comme ça. Et d'autant plus, vous connaissez, vous avez tous vu la publicité la plus connue de Benjamin Rabier. C'est la publicité pour un fromage avec un animal rouge qui sourit.
La vache qui rit.
Voilà. Je suis désolée, chers auditeurs, mais voici une publicité de Benjamin Rabier. C'est une des premières publicités de la vache qui rit. Voilà, c'est lui qui a été illustrateur de les meilleurs bris en meule ou en boîte, Gruyère de la vache qui rit.
Après, il a aussi illustré le roman de Renard, non, il me semble.
Il a fait le nom est connu, me parle.
Après, il a fait beaucoup d'illustrations. Il y a même un musée où il y a toute une section sur toutes ses publications. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a été très 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 prolifique, voilà. Et donc, il a entre autres fait des BD plus adultes, des publicités, mais il y a quand même cette série de Gédéon, donc du canard Gédéon, qui est très sympathique, en 16 tomes. Et dans une histoire, là, l'histoire de Gédéon se marie, la part donnée au mariage de Gédéon, c'est peut-être deux pages sur tout un album qui est long, c'est un peu comme le tien, Pauline. Il se lit en un soir, mais si on l'attaque vraiment pas trop tard, parce que le texte est quand même long. Et il est déroutant parce qu'au niveau mise en page, donc 1934, je pense qu'on n'avait pas à cœur autant la mise en page. et on se retrouve avec un texte avec des images au milieu, où des fois l'image ne correspond pas au texte au même moment, et les phrases sont coupées en plein milieu parce qu'il y a une image. Enfin, ça peut être un peu déroutant parce qu'on nous a habitués à des choses beaucoup plus faites.
Simple, ouais, voilà. Plus logique.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai relu à 2 ou 3 reprises, j'ai été à la ligne, mais pas à la bonne ligne. En fait. J'ai été en dessous au lieu de sauter l'image pour finir ma ligne de droite. Et voilà. Et donc, en fait, dans une histoire de Gédéon se marie, ouais, la part du mariage, enfin, vraiment, c'est 2 pages sur tout le reste. Après, il y a tout un tas d'histoires. Il va arrêter un voleur, il va récupérer un bas de laine. Oui, parce qu'on est en 1934, donc une vieille qui a mis son argent dans son bas de laine et qui, pour recompter ses pièces, avait oublié de le ranger sous son lit, l'avait laissé sur la table, c'est possible. Donc, à le dire avec des enfants, il va y avoir quelques explications, par contre, à fournir sur pas mal de choses.
Voilà. Est-ce que c'est rigolo ?
Oui, il y a plein de situations assez cocasses avec justement le fils du voleur qui lui-même aussi est voleur, essaye de voler des œufs dans un nid. Et Gédéon, il va appeler ses copains animaux pour le faire tomber. Il va tomber dans le sac dans lequel il avait prévu de mettre les œufs qui volaient. Donc, ils vont l'attacher. Enfin, il y a tout un tas de situations cocasses et un peu qu'on retrouve dans les vieux contes. Donc, c'était assez chouette à lire. C'est assez long et je serais curieuse de savoir si justement les éditions Eubeke, je ne sais pas comment on prononce.
Eubeke.
Ils ont, est-ce qu'ils ont réédité que celui-là ou tous les autres ?
Non, il y en a plusieurs. Ouais, je sais pas s'il y a les 16, mais il y en a une bonne dizaine. Ouais, donc je pense qu'ils font ça aussi au fur et à mesure parce qu'il doit y avoir tout un travail de scan au niveau des illustrations, etc. Au niveau des couleurs aussi, il y a souvent des couleurs à retravailler.
Oui, très particulière.
Donc, mais c'est une belle édition qu'ils ont fait avec un dos toilé, avec.
Et sachant qu'ils mettent aucune info, enfin sur ce livre, il y a aucune indication de date de parution, de même au dos, il n'y a pas le prix comme on peut avoir sur les rééditions où ils vont remettre les prix en euros parce qu'ils étaient à l'époque en francs, voire même en ancien franc pour le mien. Il n'y a rien qui laisse paraître que c'est une réédition moderne. On pourrait croire que c'est, si ce n'est peut-être la taille, le format qui n'était peut-être pas celui-là, j'ai un doute. Mais sinon, ça, on dirait vraiment l'édition originale, mais qui n'aurait pas été lue, qui n'aurait pas été encore abîmée par des doigts pleins de confiture et de beurre. Voilà.
Très bien, Valérie. Ouais. Je reste encore sous le choc de ce plagiat d'Hergé. Hein.
Mais c'est pas un plagiat, il s'inspire.
C'est un plagiat, Valérie.
Si moi, demain, je vais écrire un livre, je te prends.
Ça les Belges et les Français. Toujours, depuis toujours.
Et Ludo, si je vais écrire un livre, mon personnage principal s'appellera Ludo. Tu vois, un hommage plus que par plagiat.
C'est vrai ?
Mais bien sûr.
Ouais, ça me touche.
Bah, je sais.
Ouais. Allez, on va écouter une chanson choisie par Héloïse. J'ai dû apporter la censure dans cette émission pour éviter qu'on entende de réglisse qui met de l'huile. Mais je ne sais pas si c'est bien mieux, on va entendre un autre morceau de notre ami Henri Dess. Ah tiens, si je mettais une petite publicité. Et non, car nous sommes une radio non commerciale.
Tu veux qu'on chante en attendant ?
Donc ne vous en mettez pas. Ouais, est-ce que tu peux chanter ? Ah, je peux ignorer l'annonce.
Bah vas-y, ignore.
C'est bon. C'est parti.
J'adore.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises.
Le grand Dédé, poil poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil poil au dos pour faire des grimaces.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises.
Quand le Julien, poil poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil poil aux tresses, qui pousse des soupirs, quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil poil au doigt, qui marche à 4 pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Y a la Thérèse poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye poil aux orteils, on lui voit sa culotte. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête poil aux baskets. Paris, c'est la sortie. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Zoom, 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 zoom.
Allez, poil au montant, c'est reparti. Popo, poil au dos,
ouais,
qu'est-ce que tu nous présentes?
J'hésite entre un souvenir d'école et pas un souvenir d'école. Je pars sur un souvenir d'école, allez.
Allez. Bon, allez.
Je vais vous parler, alors là c'est un livre un peu particulier, je vais vous parler à la fois d'une compagnie de théâtre et d'un bouquin. Et la compagnie s'appelle Les Trois Chardons. Donc c'est une compagnie qui encore aujourd'hui intervient dans les écoles pour faire des représentations sur des spectacles pour enfants et qui en fait à chaque fois édite le livre du spectacle et donc moi je les ai vus plusieurs fois en maternelle, hein, j'étais toute petite, ça date pas d'hier et pourtant ça continue aujourd'hui. Et j'ai des souvenirs de ces histoires assez merveilleux. C'était des histoires très originales. Là, dans les mains, j'ai par exemple Monsieur Levent, qui est l'histoire de, bon, Monsieur Levent, pas de surprise, un monsieur qui passe son temps à souffler, qui souffle doucement quand il est calme, qui souffle doucement quand il est en colère, etc. Puis bon, il en a marre un petit peu d'être seul et de souffler. Et il rencontre une petite fille qui vit dans une maison qui est cachée par trois gros nuages. Et donc, elle n'a jamais vu les fleurs, elle n'a jamais vu le ciel et elle n'a jamais vu la montagne. Et donc, en soufflant, il lui ouvre un nouveau monde. Alors, j'ai toujours détesté les dindons. Et en fait, j'ai compris pourquoi en relisant ce livre. Et en fait, il y a deux méchants dindons voilà, qui embêtent cette petite fille et qui veulent absolument qu'elle reste s'occuper d'eux. Et du coup, ils l'empêchent de voir le ciel, de voir la montagne et de voir les fleurs. Donc voilà, c'est les deux méchants de l'histoire, les dindons, bon, qui sont pas si vilains que ça, mais ils ont un regard assez assez méchant.
Ils ressemblent aux vautours dans le livre de la jungle.
Il y a un petit méchant, quelque chose, ouais. Donc des vilains oiseaux. et donc, enfin, il y a cette histoire, le Monsieur Levent, il y a l'histoire de Galou le berger qui est superbe. Ouais, qui est fantastique. Alors, Valérie l'adore, alors je voudrais pas être à côté,
si,
mais
tu peux,
c'est un petit berger qui apprend à jouer de la flûte pour faire disparaître les ténèbres pour son petit agneau, qui a peur de la nuit. Donc, c'est des histoires un peu magiques, toujours très jolies. Et bon, dans le spectacle, on avait souvent de la musique et du coup qu'on réentend facilement en fait quand on la relit. Je pense que pour les enfants, c'est assez chouette s'ils ont vu le spectacle de réentendre l'histoire et de pouvoir y participer finalement. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué parce que c'est des histoires qui résonnent en fait très très vite dans l'esprit et c'est toujours assez merveilleux et c'est très varié. Je me rappelle d'une autre avec un petit indien qui part à la quête des indiens sages. Donc les thèmes sont variés, les dessins sont variés et c'est toujours assez féerique, assez magique.
Oui, puis il y a souvent un enfant qui va être le oui. personnage principal.
Oui,
des
c'est
livres,
vrai que ça pour les petits c'est très important, je pense, ouais.
Ces pièces sont encore jouées ?
Oui. Oui, à ma grande surprise, ouais, ils ont deux scènes, une à Paris, une à Nancy, et ils continuent à tourner dans les écoles encore aujourd'hui avec une douzaine de spectacles, quelque chose comme
ça.
Et
c'est des nouvelles histoires ou ils restent du coup sur les anciennes ?
Il y en a beaucoup qui restent les anciennes. Ils ont peut-être un peu renouvelé, mais j'en connaissais énormément dans la liste des titres que j'ai retrouvés sur leur site.
Moi, j'en avais vu trois, Amanda. Enfin, les enfants en ont vu trois.
Ah bon ?
Ouais, à l'école, ils étaient venus. Ils étaient venus, donc depuis 10 ans, au moins 3 fois à l'école.
Alors les dindons, ils veulent pas que la petite fille voie l'horizon, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'elle arrête de les admirer.
Eh oui.
C'est pour ça. Ils sont jaloux, ouais. Simplement.
Enfin, ils sont très mauvais quand même.
Ouais, c'est pas très gentil. Ok, très bien. Donc ça, c'est plutôt livre. Ça doit pas être réédité, j'imagine.
Je pense que vu qu'ils continuent à tourner dans les écoles, remarque, je suppose qu'ils continuent à les éditer. Hein. Alors après, là, c'est une vieille édition que j'ai retrouvée à la bibliothèque, mais je suppose que
qui continue hein.
Et j'ai reconnu les dessins, ils ne redessinent pas forcément en plus, donc là c'est rigolo parce que va y avoir beaucoup de parents, je sais pas depuis quand la compagnie existe, j'ai pas regardé, mais beaucoup de parents qui vont peut-être voir leurs enfants revenir avec le livre d'une représentation qu'ils ont eue quand ils étaient petits, ça.
Voilà, et si vous voulez appeler les Trois Chardons, c'est au 01 45 89 44 69. Et dans la même collection, il y a Pitou l'enfant roi, le petit bois de Pitou. C'est quoi Pitou? C'est un
petit garçon.
Alors oui, je revois un petit garçon aux cheveux bleus et avec une petite couronne. Mmh. Mais alors après, dans l'histoire...
Petite indienne, le bel oiseau, petit clown, l'arbre roux et petit sapin, roux, il est super. Quatre saisons.
Ah bon, l'arbre roux, c'est un bûcheron qui veut couper la fameuse arbre roux. Sauf que dans l'arbre roux, il y a plein d'animaux qui habitent. Donc les animaux en fait se liguent pour que le bûcheron, le grand bûcheron, ne puisse pas couper l'arbre. Donc il y a les abeilles qui vont piquer, l'écureuil qui va se faufiler dans les habits, qui va faire des chatouilles. Enfin il est hilarant et ce pauvre bûcheron il s'en va sans pouvoir couper son arbre. J'ai spoilé mais c'est trop bien.
Et je me demande parce que le texte est quand même assez court, les représentations ça doit être court aussi.
8
ça
minutes.
Doit durer, non mais
dans mes souvenirs c'est souvent accompagné de musique.
Ouais, oui,
c'est très beaucoup, musical quoi. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a augmenté un peu par rapport au bouquin.
Mais après je suis en train de réfléchir, moi si je les ai vus trois fois c'est peut-être parce que c'était que chez les maternelles peut-être ou maternelles
c'est jusqu'à CP. 8 ans à peu près sur leur site ils annoncent jusqu'à 7-8 ans.
Ok, bon, on va suivre avec attention savoir si ça revient un jour sur la Lozère, sur Mende.
Je vais le demander à l'école des enfants voir s'ils veulent pas les faire revenir parce que c'est vrai que c'était chouette et après évidemment les enfants reviennent en disant j'ai vu ça, il y a un petit bon de commande pour voilà. Mais ça marche parce que du coup, les enfants, ils ont vu le spectacle. C'est comme ils vont voir un spectacle, même organisé par la ville avec des troupes. Si à la fin, ils vendent le livre, ils ont envie du livre.
Il n'y a pas un spectacle qui s'appelle Le Bel Oiseau?
Peut-être.
Non, parce que mon fils en voyant aujourd'hui qui s'appelle Le Bel Oiseau. C'est peut-être ça.
Si, il est dans la liste.
Le Bel Oiseau, il est dans la liste.
C'est ça.
Il m'a dit, tu peux m'acheter le livre? Je lui ai dit non, parce qu'ils vendent le livre avec le CD. Mais
oui, mais c'est ça.
C'est ça. C'est ça.
Excellent, ça.
Ça aurait pu le marquer toute sa vie. Tu viens de...
Je vais voir si je peux faire quelque chose. Je connais du monde.
Je pense qu'il ne devrait pas t'opposer trop de difficultés quant à l'achat d'un livre. Peut-être que sinon, une libraire pourrait l'avoir.
C'est un livre avec un CD en plus.
Oui. Donc aujourd'hui, pour les chansons. Maintenant, il y a des CD.
Et le CD, en fait, c'est deux fois l'histoire qui est racontée. En fait, tu as l'histoire racontée deux fois.
Et oui.
Voilà, comme ça, tu le mets en boucle à tes enfants. Quand tu n'as pas envie de leur lire l'histoire, tu appuies sur play.
C'est pas mal, ça. Oui, mais j'ai plus de lecteur CD, moi. J'ai un ordinateur, remarque. Voilà. Ok, allez, je vais revenir pas la jeunesse de Popo, on va partir bien plus loin.
La mienne.
Non, même pas, ma chère amie. On va partir en 1890 et 1893 avec deux livres. Deux livres, Le Moulin à Parole et Le Cirque à la Maison. Alors, c'est des livres écrits par P.G. Stahl. P.G. Stahl, qui est le pseudonyme de l'éditeur Hetzel, qui est avant tout connu pour avoir publié Les Voyages extraordinaires de Jules Verne. C'est dessiné par Frolich, que je ne connais pas, et dessus il y a marqué donc Le Moulin à Parole, bibliothèque et magasin d'éducation et de récréation. Et pareil pour Le Cirque à la Maison, bibliothèque et magasin d'éducation et de récréation. Alors tout d'abord, il y a une originalité, tu y es dessus Valérie?
Oui.
Avec une note de l'éditeur. Chaque double page imprimée, en fait, est suivie d'une double page vierge qui porte l'empreinte du travail sur les presses. Alors ça peut être un peu surprenant aujourd'hui, hein. Mais c'est pas un défaut de fabrication. C'est typique des albums imprimés à cette époque, car ils étaient imprimés en chromotype. typographie. C'est un procédé d'impression qui était vraiment une innovation à l'époque, qui a marqué à peu près son temps fin 19e, début 20e, mais qui impliquait une imposition spécifique pour imprimer toutes les planches sur une seule feuille, qui était par la suite pliée puis coupée pour former le livre. Alors, il fallait éviter que le relief apparaisse au verso de la feuille. C'est pour ça que toutes les deux feuilles, il y avait deux feuilles libres. Et c'était en couleur, je crois. Mmh. Je suis en train de chercher. Il me semble que c'était déjà en couleur, ouais. Donc, le moulin à parole, c'est l'histoire de Mademoiselle Fanny, que les autres appellent le moulin à parole. Pourquoi? Parce qu'elle trouve toujours quelqu'un à qui parler, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse. Elle fatigue, elle agace tout son auditoire. Et ce vilain petit défaut, qui semble pourtant anodin, se retournera contre elle. Mais la basse-cour aidant, elle finira par comprendre la leçon. Alors, c'est des beaux témoignages de l'époque dans le texte. Vas-y, mais tu peux lire. Qu'y a-t-il
Non, je regardais la fin du livre parce que je me reconnaissais beaucoup dans cette petite Fanny, hélas.
Tiens, lis-nous un passage, n'importe lequel.
Attends, parce que j'ai ouvert sur une page blanche, justement.
Ouais. Vas-y.
Donc, c'est Fanny, le moulin à parole, qui est en train de mettre la cuillère dans sa soupe et on sent que le bol de lait, pardon, est plus glaireux que liquide. Mademoiselle Fanny a d'autant plus grand tort. 1. Qu'elle n'aime pas déjeuner seule. 2. Qu'à force d'avoir attendu, son café refroidi se couvre d'une vilaine peau dont elle ne se soucie guère, et que son déjeuner est tout gâté. Son estomac paiera pour sa langue. Voilà ce que c'est d'être un petit moulin à parole.
Oh.
Voilà, alors vous voyez
ça. Ça fait penser au malheur de Sophie un peu.
Mmh. Dans l'expression. Ouais.
Son estomac sera gâté. Voilà, c'est vraiment des.
Un vocabulaire
de l'époque. Et. Or, ça, c'est aussi un témoignage de l'époque. Les enfants, ils ont 2 ans, 5 ans, ils boivent du café.
Oui, café au lait, par contre, puisqu'il y a la croûte qui s'est mêlée.
Café au lait. Il y en a un où ils boivent du vin. Enfin, c'est extraordinaire, ce témoignage. Alors, les bonnes manières sont mises en avant, bien sûr, hein, comme toujours. Ce qu'on disait tout à l'heure, Héloïse, que c'était ces livres, c'était plutôt un public un peu bourgeois qui pouvait les lire, on le voit. Mademoiselle Fanny, elle a une bonne. La bonne, elle lui dit « Attention, arrêtez de parler, Mademoiselle Fanny, sinon votre café va être froid. »
Elle a un perroquet.
Voilà. Elle a un perroquet. Et oui, elle a une basse-cour. Enfin, à l'époque, c'était... Enfin, tout le monde avait des basse-cours. Les dessins, je ne sais pas comment on peut les définir. C'est un peu compliqué. C'est des dessins d'époque qu'on retrouve sur des cartes postales très anciennes. C'est des traits très fins.
Oui, avec beaucoup de traits, un peu comme des gravures, en fin de compte. Avec, moi, ça me fait vraiment penser au malheur de Sophie.
La deuxième histoire, le cirque à la maison, c'est l'histoire de Monsieur Lolo, casse-cou invétéré, qui raconte à sa sœur toutes les merveilles qu'il a vues au cirque et qui lui refait ce même spectacle. Il gesticule, saute sur la chaise, joue à l'écuyer sur son cheval et finit par tomber. Mademoiselle Thérèse s'amuse tant qu'elle en oublie presque de s'inquiéter. Monsieur Lolo est si content qu'il en oublie presque ses mots. C'est le cirque à la maison, c'est très drôle, mes enfants adoraient.
Ça a l'air plus rigolo celui-là, oui.
Il a une tête, il est trop marrant. Hein.
Ouais. C'est plus rigolo. J'ai préféré le moulin à parole, mais mes enfants ont préféré le cirque à la maison.
Donc... Même parce que c'est peut-être plus les grands qui percutent le moulin.
Oui, voilà. Peut-être bien, ouais. Et on a tous un moulin à parole dans nos amis.
Dans son entourage, voilà. Il faut avoir un moulin à parole.
Qu'on reconnaît immédiatement en lisant ce livre. C'est voilà, c'est pour dire que ces histoires de 1890, elles marchent encore avec les enfants de nos jours.
Mais oui, c'est vrai, c'est drôle.
Voilà. Il faut juste expliquer quelques tournures de phrases.
Oui, mais ça permet aussi d'aborder la langue française. Hein. C'est pas...
Alors c'est aux éditions Biblioman qui ont ressorti toute une collection de 1890 de cet auteur éditeur.
Puis alors c'est rigolo, derrière on voit qu'à l'époque ils éditaient une version cartonnée, je suppose, et une version reliée qui était vendue à 2 prix différents. C'est ça que j'ai l'impression de comprendre. C'est très rigolo, ça.
Voilà, le roi d'Agobert, 8 planches, 1,50€ cartonné, 1,50€ pardon, cartonné, 3 francs reliés. Ou sinon, les albums, ça c'est des dessins de 8 planches, les albums, 23 dessins. Par exemple, on va lire « Histoire d'un perroquet », 24 dessins, c'est 3 francs le cartonné et 5 francs le relié. Oui,
à l'époque, mais ça faisait cher,
ça, ça fait des budgets, des fois. Mais c'est comme aujourd'hui, entre une édition en poche et une édition brochée, c'est pas du tout le même prix.
Alors à la fin, il y a marqué « Les nouveautés pour 1877 sont marquées d'une astérix ». Donc on voit les astérix sur quelques livres. Ah, il y a des nouvelles. Voilà, très bonne idée, c'est très bien. Héloïse ou Valérie?
Alors, moi, j'ai pris plusieurs livres, en fait, de ma bibliothèque de quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas lequel. Je vais commencer par les aventures d'Auquel Horreur. c'était chez Ben Édition à l'époque, donc ça n'existe plus. Et donc, Auquel Horreur, c'est un lévrier afghan. Donc, normalement, c'est une race... très classe, très propre, etc. Et en fait, non, ce lévrier afghan, il s'appelle Auquel Horreur. Il est toujours, toujours crado, toujours à se rouler dans la boue.
C'est l'ancêtre de Chien Pourri.
C'est peut-être l'ancêtre de Chien Pourri, effectivement.
C'est quoi Chien Pourri?
C'est un petit héros, un petit personnage de livre super, super sympa.
Oui, qui est très sympa. Ouais, Chien Pourri. Il y a Chien Pourri à la plage, Chien Pourri à la ferme. Et, ouais.
Chien Pourri fête Noël.
Chien Pourri se marie.
Chien Pourri à l'école.
Il tombe amoureux.
Chien Pourri est amoureux. C'est tout. D'ailleurs. Chien Pourri tout court.
Donc là, oui, Auquel Horreur, eh ben, donc c'est ce chien qui fait des tas de bêtises et qui est très attachant. Et son loisir favori, ben, c'est voilà, d'être sale et d'en mettre partout dans la maison, de poursuivre le chat, de quelque chose de très classique en fin de compte. Mais moi, quand j'étais petite, ça me faisait vraiment... Je me bidonnais de rire quoi, avec Auquel Horreur. Et donc là, c'est Auquel Horreur, il pleut, il mouille. Et donc, il découvre l'automne. Il n'a pas un an encore. Et il découvre la pluie, il fait froid. Et donc, il n'est pas très content. Et il va décider en fait, d'hiberner comme son ami l'hérisson. Mais tout va se passer de travers. Et voilà. Et donc... c'est tout simple, c'est très drôle et bon, je vous en parle, mais on les trouve plus, donc voilà. Mais c'était très très drôle et c'est écrit par un acteur anglais, un acteur de théâtre et cinéma anglais qui s'appelle Frank Muir. Et il y en a un pour chaque saison.
Voilà. Ok.
Ça c'était très chouette.
1982. Ouais, c'est sympa, c'est joli. Vas-y, tu peux continuer si tu en as plein à présenter de.
Après, oui, j'avais pris le Tétard mystérieux. Donc, celui-ci, on peut encore le trouver. C'est à l'École des loisirs, il l'édite encore. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un oncle assez merveilleux, son oncle McAllister, qui habite en Écosse. Et qui, à chaque fois, pour son anniversaire, en fait, il lui envoie des choses vraiment fabuleuses qu'il trouve en Écosse. Et donc là, cette année-là, eh ben, il reçoit un petit bocal avec un petit tétard à l'intérieur. Et il est très content, il l'amène à l'école. La maîtresse explique du coup comment un tétard devient grenouille, etc. Et lui demande au petit de ramener régulièrement pour voir l'évolution en fait, de son tétard. Et au bout d'un moment, bah, voilà, le tétard ne rentre plus dans le bocal, on le met dans l'évier. Il rentre plus dans l'évier, on le met dans la baignoire. Et au bout d'un moment, il faut une piscine, quoi. Il grandit, il devient une espèce de. Le dessin, c'est un espèce de gros dinosaure sympathique. Voilà, et du coup, bah, la maîtresse est fâchée, les parents sont fâchés, ils n'en peuvent plus de tout ça. Alors, il va le mettre dans la piscine municipale, dans la piscine du lycée l'été, en attendant la rentrée, savoir ce qui va se passer pour lui, parce que c'est quand même assez contraignant. Et il aime son tétard et il sait pas trop quoi faire avec. Donc, ils vont trouver une solution avec la bibliothécaire de son école parce que la solution vient toujours des bibliothécaires. Et en fait, il s'avérera effectivement que McAllister avait pêché ce petit tétard dans le Loch Ness.
Ah.
Voilà.
Ah, d'accord.
Et c'est très mignon et c'est très drôle. Et les dessins, je les adore parce qu'il y a... Il y a plein de détails, il y a plein. Oui, ça fait un peu effectivement. Voilà, ça fourmille de détails et de choses très rigolotes. Et c'est une histoire vraiment très touchante et que je conseille. Je l'ai à la librairie tout le temps.
Et tu t'es entraînée à écrire dessus quand tu étais petite.
Ah oui, bah ça, il a vécu ce livre.
Excellent.
Tu vois, j'ai même écrit mon prénom au début.
Ah oui. Très belle écriture. C'était bien droit. Ok, merci Héloïse. Avant de revenir vers toi, on va passer à Valérie.
C'est vrai ?
Oui.
Moi, j'aurais pu vous parler des livres que j'aimais quand j'étais petite, mais tout le monde les connaît, en fait, je me suis rendu compte.
Et alors ?
Non, moi, c'était Aglaé et Sidonie, mon livre... Vous ne connaissez pas ?
Alors, ça ne me dit rien, comme ça.
Une noix Aglaé. Et un... Oui, une truie, une noix. Et il y avait Agénor, le coq, mais je ne l'aimais pas trop, il se la racontait un peu. Et leur quotidien, c'était pas. C'est un peu finalement, ça rejoint un peu le livre de Gédéon dont je vous parlais. Sauf que c'était des petits livres tout petits. Et au dos du livre, il y avait toujours la chanson avec la partition de la chanson qui était chantée par Aglaé et Sidonie
dans le livre.
Et donc, je vais essayer de la trouver, tiens, cette chanson.
Il y en avait, parce qu'après, ils l'ont mis en fil,
en marionnette, non? C'était pas des espèces de.
Ouais, peut-être après, je sais que ça a été mis à la télé, mais alors, comme mon cher auditeur préféré m'a envoyé le message en me disant, mais tu n'avais pas la télé à cette époque.
Ce mais qui n'est pas
c'est,
faux.
Ce qui est vrai, mais voilà, ça a été mis en film, et je sais que dans les séries, pareil, il y avait toujours ce petit générique, ce petit moment de musique, propre à Aglaé et Sidonie. Et donc, dans le livre, c'est des petits livres avec la couverture comme un tissu sur le côté. Et donc, il y avait l'histoire voilà, d'Aglaé, donc la truie, Sidonie Loi qui vit à la ferme, Agénor le coq qui veillait sur ces deux femmes quand même, parce que bon, on remonte quand même quelques années en arrière et le machisme était peut-être un peu plus présent. Et il y avait Croquetou le renard, mais qui est j'aimais bien, moi, Croquetou le renard, il cherchait à faire des bêtises, il cherchait à être vilain, mais il avait un petit côté sympathique. Et voilà, c'était plein de petites aventures à la ferme de nos deux personnages, Aglaé et Sidonie. Voilà. Est-ce que tu as trouvé la chanson d'Aglaé et Sidonie?
Ça va arriver. Ah oui, c'est ça.
C'est le générique de l'accordéon, du coup.
Non, parce qu'à l'époque, je jouais de l'harmonium. Je ne jouais pas d'accordéon.
Alors attends, je la mets.
Les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.
Gilles Béroussel, ouais, qui nous proposait.
C'était par.
C'était un dessin animé à l'époque en marionnette. Ouais, en marionnette.
Après dessin animé, je sais pas, j'ai pas vu, mais après moi j'avais les puisqu'on n'avait pas de télé, mais j'avais les livres. Voilà, c'était des petits livres blancs avec des comme un tissu rouge, enfin qui était assez résistant du coup. Et parce que moi je les tenais de mes sœurs, donc c'était pas c'était pas aussi contemporain que ce que je l'étais à l'époque. Et voilà, il y avait cette originalité dans le livre, c'était à la fin du livre, au dos du livre, une partition et une chanson en dessous, propre à l'histoire qui venait se passer d'Aglaé et Sidonie.
Tu l'as joué à l'accordéon ?
Alors, Héloïse vient de me poser la question.
Ah, pardon.
Et j'ai répondu non, à cette époque, je ne jouais pas encore d'accordéon, je jouais de l'harmonium.
Ah oui, voilà. Pardon, excuse-moi, mais je suis en train
de. Et je le jouais sur mon petit clavier Roland qui possédait juste deux octaves orange.
Et tu sais si ils sont encore édités, les livres, ou pas? Moi, ça me dit rien, j'en ai jamais croisé.
Alors, il me semble l'avoir vu dans des librairies d'occasion, enfin, tu sais, des trucs d'occasion, mais tellement propre et tellement neuf.
Oui, c'est
que
possible.
Je me dis, c'est possible que ça ait été réédité et que les gens n'aient pas accroché de par l'histoire, parce que c'est, concrètement, c'est une histoire qui se passe dans une ferme, point. Voilà. Oui, bon, moi, à l'époque, ça me convenait très bien. Je me dis, les gamins d'aujourd'hui, enfin, les enfants d'aujourd'hui, peut-être ont besoin de plus d'exotisme, d'aventure, voilà.
De super-héros.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que là, bon, Aglaé et Sidonie, c'est quand même une truie, une oie.
Oui.
Mais
pour sauver le monde, c'est pas terrible.
Ouais, mais c'était, tu vois, c'est peut-être ce livre dont j'aurais dû parler sur l'émission du féminisme, parce que c'était quand même deux femmes et qui, qui vivent des
aventures. Ce ne sont pas des femmes.
Des femelles.
Des femelles.
Voilà. Ne confondre avec les femelles, parce que c'est la prononciation.
Oui, qui vivaient des aventures.
C'est ça.
Libertaires.
Oui, non, pas libertines.
Pas libertines.
Voilà.
Absolument pas.
Donc voilà, non, c'était des super petites histoires qui ont été mises donc après en dessin animé marionnettisé, je ne sais pas comment on dit. Et je laisse la parole à Pauline qui va parler de mon deuxième livre préféré du monde, je crois.
Ah bon ?
De la vie de la Voie lactée même.
Je vais parler de celui-là.
C'est oui,
celui-là.
Gardien de ma vie.
En plus, la transition l'auteur. Est super parce que l'auteur, elle est un peu. On parlait de féminisme. Mmh. Bon, elle n'était pas féministe, mais elle a fait partie des
grandes femmes de ce monde.
Oui, des grandes femmes de ce monde. Ouais.
Et là, Ludo dit, mais de qui parles-tu donc, Pauline?
De qui parlez-vous?
Tove Jansson. Comment on le prononce? Jansson.
Jansson.
Ouais.
Je ne connais pas.
Ah, mais tu as vu son
expo? Je pensais que ça avait bercé vos enfances.
Les Moumines.
Ah, c'est les Moumines.
Mais c'est les Moumines.
Ah, si, j'ai vu son expo.
Ouais.
Ouais, mais c'est la fin de journée, je sais pas bien.
Et alors moi, je connaissais le personnage Moomins, mais je n'avais jamais lu, donc j'ai baigné dans votre enfance à vous un petit peu avec cet album. Et c'était assez incroyable comme expérience. Là, c'était pas un album...
De bercer dans nos enfances ou...
C'était fabuleux. Non, ce livre. Ah. C'est un genre de... Alors cet album-là, c'est un genre d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai trouvé un petit peu. Je sais pas si tous les albums sont de ce style-là, mais là, en fait, c'est pas le personnage principal, c'est pas un Moomins. C'est une petite fille qui s'appelle Susanna. N'ayant lu aucun autre album de cette série, je sais.
Elle va souvent dans la. Enfin, c'est un personnage qu'on retrouve dans la vallée des Moomins, Susanna.
Oui, elle, des fois, elle leur en visite, mais c'est vrai.
C'est humaine qui va chez
Ils sont souvent
chez les
entre eux aussi, ça dépend, ouais.
Ah ben là Susanna s'ennuie, comme Alice, elle trouve un peu le monde un peu ennuyeux, elle aimerait bien qu'il se passe des choses, que ça devienne de plus un peu plus excitant, voire plus dangereux. Oui, elle a peur de rien. Et ben, crois pas si bien dire, d'un coup ça va devenir dangereux, son chat va devenir monstrueux et s'enfuir.
Je lui avais dit les chats.
Ouais. Et elle va partir à la recherche de son chat. Mais alors elle va se retrouver dans un monde absolument terrifiant où tout est menaçant, tout est sombre, même son reflet dans l'eau de la rivière est monstrueux. Voilà, tout fait peur, les oiseaux sont dangereux. Et elle va croiser donc la route de Emul, un Moomin, et de ses petits copains qui sont, je ne sais pas quel type d'animaux, des petites souris,
des
petites... Ah, les petits sont des trolls. Parce que les Moomins, je les aurais appelés trolls.
Ah non, les Moomins sont des trolls, oui, pardon.
Ah oui,
ouais.
Mais regarde, ses copains sont...
Ah oui,
genre
ça,
de... Alors, il y en a
pas.
Un, c'est un chien.
Mais il y a un hippopotame.
Et non, les deux petites choses.
Ah, les deux petites choses.
On dirait des petites souris. Enfin, c'est très, très mignon. Je les trouve super. Et puis, en plus, ils parlent d'une manière, ces petits animaux, d'une manière un peu particulière. Fatigla, crêpla, ils mettent tous les mots en là. C'est très, très drôle. Et donc voilà, elle va finir son chemin à travers ce monde terrifiant avec ces quatre personnages, et puis pour arriver dans la vallée des Moomins, qui est absolument merveilleuse. C'est assez incroyable ce bouquin parce que les dessins sont très originaux. Je vous ai parlé de l'épisode du reflet dans la rivière. Moi, je l'ai trouvé très très mignon, à la fois la petite fille et son reflet qui est un peu monstrueux avec ses grands yeux là terrifiés. J'ai trouvé ça doit être, je sais pas, de l'aquarelle peut-être, je sais pas quelle technique est utilisée, mais là pour le coup c'est très sombre parce que l'univers est sombre, et donc les dessins sont assez chouettes et les textes sont assez incroyables. À l'origine c'est en finlandais, en suédois, je ne sais plus.
Suédois. Il me semble.
Et en fait, c'est très poétique. Tout rime. Ce sont des textes à rime.
Ah, j'aime pas trop,
c'est,
ça.
C'est très bien fait. Non,
tu dois le lire.
Ouais, il faut le lire parce que c'est assez superbe. C'est très poétique, c'est chantant, c'est l'histoire est rigolote, les personnages sont très drôles. Là, ces petits animaux, moi, ils m'ont fait mourir de rire avec leur façon de parler complètement improbable. Non, c'était vraiment génial. Je les ai pas connus quand j'étais petite et c'est un grand regret parce que je crois que je me serais bien marrée avec eux. J'aurais passé des bons moments. Donc allez-y, n'hésitez pas, quoi.
Bah après, oui, il y en a plein des albums des Moomins. Effectivement, elle en a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les petits Suédois, connaissent
très bien. Le monde entier, hein.
Et c'est vrai que le monde entier. Et c'est vrai que ce sont des textes qui sont assez nuancé, c'est jamais tout beau, tout cucu la praline, etc. Il y a toujours du danger, il y a toujours un peu de peur, et il y a toujours la solidarité aussi. C'est très beau, je trouve.
Ah ouais, c'est très très chouette.
Alors je suis interloqué parce que Valérie, tu as dit c'est mon deuxième livre préféré de l'univers, mais quel est le premier?
Joël Batz, Gardien de ma vie. Mais là on parlait sur les jeunesses.
Ah, sur la jeunesse.
C'est pour ça jeunesse. J'avais Aglaé et Sidonie, j'avais ça, et après les Étrange métamorphose d'Anaïs, mais c'est censuré, donc.
Pourquoi c'est censuré?
C'est bien, c'est la petite fille qui se transforme en lapin, les parents la dépècent pour la manger, un truc assez sympa.
Ah ouais, d'accord, non.
Mes parents m'avaient offert sans le lire avant.
Ah oui, non, ça...
10 ans de thérapie après.
Ça, on n'achète pas. Le livre préféré de l'univers d'Héloïse quand elle était petite?
Oui, encore maintenant, je pourrais le dire. Ah. Enfin, j'en ai plein, mais... Ben, il s'appelle Héloïse.
Bien donc.
sans H. De Kay Thompson, qui est un sacré bout de femme aussi, cet auteur. Et donc, qui a écrit cette aventure d'Héloïse. Héloïse qui est une petite fille qui doit avoir 8 ans et qui vit au Plaza à New York. Avec sa nanny, ses parents sont jamais là, donc c'est vraiment la reine de l'hôtel. Elle fait ce qu'elle veut, elle connaît tout le monde, elle arrête pas d'embêter le réceptionniste, elle de faire des blagues aux clients. Enfin, c'est vraiment la reine de cet hôtel-là. Et quand j'étais à New York, j'étais au Plaza et il y a toute une espèce d'exposition Héloïse. Il y a même une chambre Héloïse. Enfin, c'est un livre qui est très connu aux États-Unis, un livre jeunesse qui est assez connu.
Une chambre à $200 la nuit.
Oui, c'est la moins chère. Même plus, je pense.
Héloïse, c'est rigolo, ça.
Oui.
Et c'est connu à ce point, alors.
C'est très connu là-bas, oui, effectivement. Il y a plein de produits dérivés, etc.
Et c'est étonnant, d'autant plus que c'est un prénom qui doit être imprononçable en américain.
Oui, ça semble pas très...
Oui, c'est vrai.
Même sans le H.
Et donc, il y a plusieurs aventures, mais celui que j'ai apporté, c'est le premier, où on voit vraiment son quotidien, sa vie quotidienne avec sa tortue qui s'appelle Fanchounette, avec son carlin, avec sa nanny qui perd ses cheveux tellement elle est pénible et en même temps elle est attachante, enfin voilà. Et du coup, toutes les illustrations sont en rose, noir et blanc. Et elle a une imagination débordante et du coup, il y a souvent des petits dessins comme ceci, voilà, où en rose, en fait, c'est ce qu'elle imagine. Donc, elle imagine qu'elle est chef d'entreprise et qu'elle dirige tout un tas de vieux barbus dans la salle de réunion du Plaza. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses comme ça et c'est vraiment super. Et en même temps, c'est une petite fille qui n'a pas ses parents, qui est seule et qui est... Et ça explique aussi plein de choses, qu'elle veuille se faire remarquer, qu'elle veuille que tout le monde l'aime dans l'hôtel. Enfin, voilà. Et donc, c'est très drôle et c'est très touchant. Et moi, ce livre, je le connais un peu par cœur, quoi. Il est chouette.
Mais il a été réédité ou c'est ton édition que tu as bichonné depuis?
Alors
que
ça, c'est mon édition, effectivement, mais il est réimprimé, réédité, oui.
Il est réimprimé. C'est un super bon état pour...
J'ai appris le tétard mystérieux à prendre soin de mes livres.
Ça, il n'a pas marqué ton prénom.
Oui, non, j'ai même pas marqué mon prénom sur celui-là, non.
En même temps, c'était sur la couverture.
Voilà, non, mais c'est très drôle et c'est même si c'est très américain, tout le monde,
ouais, n'importe quel enfant peut. Américain, ouais, comme.
Mais n'importe quel enfant peut rire en fait de ces situations parce que clairement, ce sont principalement en fait des bêtises et des jeux et des l'imaginaire quoi d'un enfant. Voilà, donc c'est très chouette.
Très bien.
Et toi, Ludo, dans ta jeunesse?
Moi, dans ma jeunesse, on se servait des livres pour se chauffer.
Ah ben, je comprends.
Pas d'argent.
Je comprends.
On brûlait les feuilles.
Oui, je comprends.
Donc, on mangeait des tartes aux pierres. Ouais.
Oh là là, non, mon pauvre Ludo.
Ouais, je sais. Mm-hmm. C'est triste.
Par contre, Pauline, elle en a plein.
Pauline, elle a plein de souvenirs.
Ah ouais, j'en ai plein d'autres, si on a encore du temps.
Allez, on a un peu de temps, vas-y.
Alors, un livre pas de mon enfance, mais un livre de l'enfance de plein de gens, peut-être, même si c'est complètement improbable comme livre pour enfants. C'est un livre qui s'appelle « Livre », au pluriel. Ouais. Qui a été écrit par... Alors, attendez... Murray McCain est illustré par John Alcorn, qui ont fait plusieurs livres ensemble. John Alcorn, c'est un graphiste, affichiste américain. Et donc, ils ont fait ce bouquin qui part des livres. Et donc, il nous dit, il y a des livres sur le roi Dagobert, les magiciens, sur Casse-Noisette, qui nous dit, il y a des bons mots dans les livres, mais aussi des mauvais mots, il y a des lettres, il y a, enfin. C'est un livre un peu particulier et c'est surtout un livre qui est extrêmement graphique. On dirait un livre en fait de typo ou un livre pas du tout un livre pour enfants. Donc il a été primé par le New York Times en 62, je crois. Il a fait partie des 50 meilleurs livres de l'année. J'ai rangé mon cahier, mais bref. Enfin, c'est un livre qui a marqué son époque, mais en tant que livre pour enfants. Donc on est en 62, je crois,
Oui, c'est ça qui est étonnant presque. Ouais. Ce serait aujourd'hui, ce serait pas surprenant.
Pour un je trouve que ce serait pour un adulte, un livre d'art, peut-être un livre. Je trouve de typographie parce que donc on a plein de typos différentes, de taille, de style. On a des illustrations. C'est un style assez particulier aussi. Je sais pas trop les décrire, ça va très bien avec les livres anciens un peu qu'on a montré, je trouve, tout à l'heure, sauf dans les couleurs, on est dans les tons noir, gris et rose fluo, rose pétant, beaucoup. C'est un peu un ovni, je trouve, de la littérature jeunesse. Et en fait, je regrette que ce soit pas un de vous deux parents qui l'ayez pris et testé sur vos enfants pour voir comment on peut lire ça à un enfant ou comment il peut le lire et est-ce que ça lui plairait.
Ouais, mais est-ce que les couleurs, ils les ont gardées, tu penses, d'origine, ou est-ce que ça a été revu?
Alors, non, j'ai vu des originaux, des reproductions sur Internet.
Il y a ce rose.
Il y a ce rose, il y a ces couleurs. Ils ont, donc, l'autre bouquin qu'ils ont fait ensemble, c'est Write Ever. Écriture, je pense qu'ils ont dû traduire, et c'est vraiment le même style avec à chaque fois une couleur qui pète à fond. C'est très étonnant.
C'est drôle, j'imagine que en lisant à voix haute et en mettant le ton, ça peut être très rigolo pour un enfant.
Vas-y, Louise, lis-nous à voix haute.
Ton nom est un mot, le mien aussi. Chaque mot a un sens, sauf peut-être supercalifragili. C'est psychologicus. Ton nom veut dire toi.
Et puis toi est écrit en gros.
Ouais. Oui, non, mais voilà. Chèvre, interdite dans la bibliothèque. Tu sais pourquoi? Il y a une chèvre en train de manger un livre en dessous. Non, je trouve ça.
C'est très rigolo. C'est super original.
Et donc, années 60.
Ouais. Et vraiment une petite perle, je pense, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Très franchement. C'est super, super original et c'est un tout petit livre, hein, c'est un format A5 à peu près. Très joli, très chouette, autant pour un adulte et puis peut-être pour un enfant, mais j'ai pas pu le tester, donc je peux pas vous dire. Super chouette.
Et c'est chez qui, du coup, qui c'est qui a fait ça? Pardon.
Valérie va nous dire ça.
Je cherche Autrement Jeunesse.
D'accord.
Autrement Jeunesse.
Ouais. Une collection vintage, non? C'est pas cela, c'est...
Oui, si, si.
Ouais, voilà.
Autrement Vintage. Ouais.
Où en fait, ils rééditent des textes qui ont marqué l'édition jeunesse, soit ils font des traductions. Celui-là n'avait jamais été édité en France, a priori, alors que ça a été un succès énorme aux États-Unis.
Plein de dessins.
C'est vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un livre?
Alors, tu parles pas dans le micro, tu balances des livres par terre, mais ça devient n'importe quoi.
Il est temps que ça s'arrête.
Hein. Oui. Est-ce que tu veux présenter un dernier livre ou on s'arrête maintenant?
Oh, bon, on peut s'arrêter maintenant.
Allez, on s'arrête maintenant. Et Louise, que va-t-on proposer pour dans 2 semaines?
Je ne sais pas.
Ça sera le mystère. C'est un secret, vous verrez bien.
C'est okay. Les meilleurs.
Parfait. Allez, bon week-end de la Pentecôte. À bientôt.
Bye.
Bye bye.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.